Ça fait une quinzaine d'années que je travaille au sein de Between. Il y a environ 6 mois, j'ai dû faire le recrutement de ce qu'on appelle un CSM, c'est-à-dire un Customer Success Manager. En fait, c'est un chargé de clientèle, hein. C'est quelqu'un qui va avoir vraiment un rôle important dans le lien entre les clients et notre logiciel de recrutement. Donc, quelqu'un qui doit avoir une présentation parfaite, une élocution, un sens de la communication, une agilité à interagir entre les personnes. Donc, le comportement et la présentation sont un élément important du poste. J'étais aussi, il faut le préciser, dans un contexte de relative urgence. J'avais une pression dans le recrutement parce qu'on avait subi 2 départs qui déséquilibraient l'équipe CSM. Et dans ce cadre, donc, je reçois plusieurs candidats pour les entretiens de préqualification. Il faut savoir que je fais vraiment attention, une fois que le job descriptif a été fait avec le manager, de bien préqualifier en amont, c'est-à-dire premier appel téléphonique, dans les grandes lignes. Si ça colle, je vois le candidat en visio, comme un entretien classique où je préqualifie, mais au niveau plutôt RH. Ce qui s'est passé donc avec ce candidat, durant notre échange, j'ai senti que c'était globalement positif, mais j'ai senti quelques warnings dans le langage utilisé, par exemple, qui pouvait sembler un peu familier. Disons qu'il y était un peu à la cool, mais ça peut être aussi l'effet de la visio, hein, qui peut aussi nous donner cette impression. J'ai senti quelqu'un de motivé, ça c'est important pour nous. Donc, je me suis dit, OK, je valide et je prends rendez-vous avec la manager, mais cette fois-ci en présentiel. Donc, le jour J arrive, le jour de l'entretien, le candidat se présente à l'accueil et c'est moi qui vais le chercher pour me présenter. C'est toujours mieux puisqu'on s'est vu que par visio ou par téléphone. Et je suis un peu interloquée, en fait, je me souviens très bien, dans le hall de l'entrée, voyant arriver de façon quasiment débraillée, pas l'allure de quelqu'un qui vient passer un entretien de recrutement et surtout pour un poste de CSM chargé de clientèle qui doit après avoir une présentation qu'on espère être le reflet de notre entreprise. Je présente donc ce candidat à ma manager et je me dis intérieurement, connaissant bien ma manager, que ça va être assez court. Et à ma grande surprise, l'entretien dure, mais il dure vraiment. Il dure, je pense, une petite heure, ce qui est pas mal pour un entretien d'embauche. Je vois ma manager sortir du bureau et même faire le tour des bureaux à mon candidat et aux différents membres de l'équipe. Bien. Le candidat repart et comme on fait à chaque fois, on débriefe hein, avec le manager. Alors là, je fais très attention, étant donné que j'avais vraiment été sur mes gardes quand j'avais été chercher ce candidat à l'accueil, de ne pas passer ma première impression sur le candidat. Donc, question ouverte que je lui pose, comment l'as-tu trouvé, etc. Et là, elle est très, très positive, très emballée. J'ai un autre membre de l'équipe qui me dit la même chose, qu'il a beau être junior, il a très envie de se former, donc un sentiment très positif. Donc, je tais mes doutes et vu l'urgence du recrutement, je fais une proposition à ce candidat de venir nous rejoindre. Bon, il s'avéra ensuite que la période d'essai n'a pas été validée et qu'entre nous, ça n'a pas matché.
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Mais est-on si sûr que cette citation convient au processus de recrutement ? Faire intervenir plusieurs interlocuteurs lors d'un recrutement garantit-il forcément une plus grande objectivité dans l'évaluation et dans le choix du candidat retenu ? Rien n'est moins sûr. La faute en incombe au biais cognitif dénommé pensée de groupe ou pensée moutonnière. Irving Janney a ainsi démontré, dans ses travaux en psychologie sociale, la très forte tendance des membres d'un groupe, lors d'une prise de décision, à rechercher à tout prix le consensus. Ils vont ainsi chercher à éviter coûte que coûte, les conflits, quitte à porter atteinte à la rationalité, l'efficience et même à la moralité de la décision collective. Aussi, au lieu d'être plus objective, une décision de recrutement collectif s'avère bien souvent irrationnelle, extrêmement conformiste et encline à maintenir le statu quo. Chaque membre du groupe a, en effet, le réflexe de taire ses doutes et de se ranger à l'avis dominant du groupe. Dans ce nouvel épisode de notre série de podcast « Histoire de recruteurs » proposé par WeSuggest, plateforme d'évaluation des soft skills de recrutement, nous allons donc nous pencher en détail sur les mécanismes de la pensée de groupe et explorer ensemble les solutions à adopter pour minimiser son impact dans les processus de recrutement tout en tirant bénéfice du recours au collectif. Je suis Marie-Sophie Zambeau, éditorialiste RH, et pour aborder cette thématique, nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui, derrière notre micro, Anne-Sophie Hongre, talent recruteur et directrice des ressources humaines chez Between, ATS pour le recrutement. C'est parti! Bonjour Anne-Sophie et bienvenue.
Mais bonjour, merci de me recevoir.
Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui avec moi pour cet épisode consacré au biais cognitif de la pensée de groupe. Mais avant d'aller dans le fond du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à nous, s'il te plaît ?
Je suis Anne-Sophie Hong, je travaille depuis une petite quinzaine d'années chez Between, qui à l'origine était un cabinet de recrutement dont je faisais partie, j'étais une chasseur de tête. Et aujourd'hui, Between a grandi, est devenu un éditeur de logiciels de recrutement, et moi je suis devenue la directrice des ressources humaines, donc je recrute pour moi, pour Between, pour nos propres collaborateurs.
Dans l'anecdote que tu nous as racontée, tu as été victime justement de ce fameux biais de la pensée de groupe. Est-ce que tu peux nous en donner ta propre définition ?
Alors je pense que c'est d'abord quelque chose qu'on fait sans le savoir. Je pense que la pensée de groupe, c'est une tendance qui amène les membres d'un groupe à rechercher le consensus à tout prix et à taire leurs doutes, voire taire presque leur créativité et surtout leur sens critique.
Est-ce que tu as pu le constater de manière très très concrète dans le cadre de tes expériences professionnelles ?
Oui, à plusieurs niveaux. Alors moi, j'ai le rôle particulier de recruter, mais je ne travaille pas avec les personnes avec lesquelles je recrute. Donc je collabore avec elles, on a un fort sens collaboratif dans le recrutement au sein de Between. Mais après, pour ce qui est de l'expérience métier, j'ai toujours une balance à respecter entre moi, les soft skills, ressources humaines, et puis ce que les métiers attendent. Donc taire mes doutes, je l'ai déjà fait, mais j'apprends aussi à écouter et à repartir toujours du job desk, en fait, pour rester objectif et factuel.
Si tu devais revivre l'anecdote que tu as eu la gentillesse de nous raconter, qu'est-ce que tu modifierais en fait ? Qu'est-ce que tu ferais de différent ?
Alors c'est vrai que de l'anecdote que je vous ai racontée, il y avait le sens de l'urgence. Donc essayer de prendre du recul et d'objectiver par rapport à cette pression que pouvaient avoir des managers qui voient leur équipe diminuer, donc la charge de travail augmenter et donc une forte demande de recrutement. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'asseoir à une table. Ça paraît comme ça, mais je me remémore très bien. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on s'est parlé entre deux portes, dans le couloir, etc. Et on n'a pas pris le temps de s'asseoir pour reprendre ce qu'on avait construit ensemble, c'est-à-dire le job descriptif et les critères et objectiver. Et je pense que si on avait fait ça même en 10 minutes, un quart d'heure, on se serait aperçu que certaines choses ne correspondaient pas.
Donc si vous aviez pris le temps de vous asseoir autour de la table et de reprendre, en plus que tu dis que c'était co-construit, donc il n'y avait pas de surprise ni d'un côté ni de l'autre, de repasser en revue les différents critères, de les pointer et d'argumenter pour chaque critère, ça aurait sûrement changé la décision finale.
Ça aurait obligé la manager et puis l'autre personne de l'équipe à faire plus preuve de sens critique, on va dire.
Ça semble assez évident, c'est vrai, souvent en recrutement, il y a des choses dites comme ça en termes de technique ou de conseil. On peut avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, s'accorder du temps dans le recrutement, surtout quand on est dans un contexte d'urgence, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. Et puis, ne pas oublier que dialoguer, prendre le temps du dialogue, de l'échange, de la concertation, forcément, ça prend beaucoup plus de temps qu'un accord de façade et se ranger à un consensus.
Et en définitive, ça en fait gagner du temps. C'est ce qu'il faut arriver à se dire. Voilà, prendre du temps pour en gagner.
Justement, sur la pédagogie, réussir à faire passer ce message que par moment, il faut savoir, soi-disant, perdre du temps pour se poser, pour pouvoir en gagner beaucoup plus par la suite et ne pas faire une erreur de casting, entre guillemets, ou recruter la mauvaise personne.
Alors après, moi, ce que j'ai tendance à faire avec les managers, en plus, nous, chez nous, les managers sont relativement juniors, c'est je crée des petites jurisprudences. Là, c'est une jurisprudence comme une autre par rapport à l'anecdote que je vous ai racontée. Donc, je sais que si ça se représente, je vais faire appel au cognitif de ma manager en disant « Mais attention, ça, on l'a déjà fait, c'est la jurisprudence Intel. On va prendre le temps, on ne va pas refaire la même chose et on ne va pas faire les mêmes erreurs. » Donc, c'est comme ça que j'arrive un peu à objectiver et à nous créer des expériences que j'appelle jurisprudence Between.
Est-ce que tu as d'autres techniques, conseils pour pouvoir lutter au maximum contre ce biais de la pensée de groupe ?
Je pense que c'est important, même sur des postes qu'on a l'habitude de recruter, hein, sur des recrutements récurrents, de reprendre à chaque fois un petit moment avec le manager et à une table, on se pose et on liste de façon très simple, hein, très concrète, les différentes compétences qu'on attend du futur candidat. Ça permet de prendre un pas en arrière et d'objectiver le recrutement.
On a échangé préalablement à cet enregistrement. Tu avais évoqué l'ordre de prise de parole en disant que c'était quelque chose qui était important pour toi, tu y faisais attention depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ?
Quand j'implique le manager, une fois qu'il a rencontré un candidat que j'ai présélectionné, je vais poser une question ouverte. Je ne vais pas commencer par donner mon avis. Donc, question ouverte, qu'est-ce que tu as pensé du candidat ? Et moi, je vais prendre la parole tout à la fin, une fois que j'ai fait un tour de table et que j'ai le sentiment général, mais surtout pas imposer d'emblée l'avis que je pourrais avoir sur le candidat.
Est-ce que c'était arrivé dans le passé de ne pas appliquer ça qui est assez
évident ?
Bien
sûr, on apprend. Surtout là, quand c'est quelque chose qui est pour vous flagrant, qui touche à une valeur presque primaire et évidente, comme s'habiller correctement à un entretien. Voilà. Et donc là, le premier élan voudrait qu'on aille voir le manager en disant « mais non, mais là, c'est pas possible ». Objectivons, un pas en arrière, écoutons d'abord et avant de donner son avis. Normalement, on arrive à un consensus.
La personne qui parle en premier va en fait ancrer une opinion, ancrer un avis, et puis il peut y avoir un effet de cascade, voire même une polarisation, où cet avis va être accentué au fur et à mesure, et d'autant plus si la première personne qui s'exprime est le chef.
Voilà, ça, c'est ça. Sûr. Et puis alors, une deuxième chose que je fais, avec un petit ton d'humour, hein, j'essaie d'être l'avocat du diable. C'est-à-dire, je vais à contre-pied, je contre-argumente, je titille les objections ou les agréments de mes managers pour savoir si vraiment ils sont fondés et réfléchis. Je vais forcer le trait, je vais accentuer. Alors, évidemment, toujours en reprenant les critères du départ. Mais tu m'avais dit que, mais alors voilà, etc. Donc, je les pousse en fait à réfléchir et à développer leur sens critique.
L'avocat du diable, j'aime beaucoup comme technique. Ça me fait penser à une autre qui n'est pas très connue, qui est le pré-mortem, qui a été développé par Gary Klein. Ça consiste, pour n'importe quelle prise de décision, mais ça s'applique très bien au recrutement, puisque recrutement, c'est une prise de décision, de se dire, voilà, collectivement, on est autour de la table, on doit prendre la décision. On se projette à la fin de la période d'essai, dans un an ou dans deux ans, le recrutement a été un échec. Ça s'est soldé par un échec. Selon vous, pour quelles raisons? Et chaque personne va, sur un petit papier, de manière anonyme, écrire les raisons pour lesquelles ça a été négatif. Et c'est souvent très, très révélateur, justement, des freins, des doutes, des objections qui n'ont pas forcément été énoncées de manière très claire par les différents acteurs.
Moi, je retiens l'idée, j'appliquerai les petits papiers.
Le recours au collectif fonctionne très, très bien, mais pas n'importe comment. Quelles sont les conditions sine qua non pour toi pour que ça fonctionne?
Il faut s'écouter et il faut aussi savoir trancher. C'est-à-dire, le collaboratif, c'est bien, mais il faut que quand on donne une opinion, elle soit réfléchie et que quasiment on ne puisse pas y revenir dans les grandes lignes pour que justement elle soit pensée et assez définitive.
Pour se prémunir au maximum de ce biais, il est important de faire en sorte qu'il y ait un vrai débat, un vrai échange d'idées qui ait lieu. Ma question, difficile, je l'admets, comment faire en sorte que cette confrontation d'idées ne vire pas au choc entre personnes?
Alors, collaboratif, ça veut dire que chacun donne son opinion, hein, comme on l'a dit, en s'asseyant autour d'une table physiquement, en prenant le temps, sachant que quand je fais un tour de table, moi-même, j'ai un peu le curseur intérieur, parce que je connais mes collaborateurs et que j'ai la chance de les avoir tous recrutés. Donc le curseur, c'est un petit peu moi qui le remet au centre quand je sais sur quel élément ils vont pointer l'attention, sur quel comportement, sur quelle compétence. Donc j'essaye moi d'être la boussole qui remet au centre. Et le centre, c'est quoi? C'est le job descriptif du poste, une fois que j'ai eu tous les avis. Ce qui n'exclut pas que j'écoute quand même ce qu'on me dit, parce que évidemment, on sera tous d'accord à peu près sur la fiche de groupe. Après, les valeurs de l'entreprise, les personnes qui font partie de Between, tout ce qui est soft skills, c'est beaucoup plus subjectif. Et c'est plutôt là que je mettrai mon curseur, parce que je connais mes collaborateurs, que je les ai recrutés et que je travaille avec eux.
Le sujet du biais de la pensée de groupe et de la pression du groupe me semble encore plus prégnant lors d'une cooptation. Quels sont tes conseils personnels sur le sujet?
C'est un sujet plus délicat parce que cooptation veut dire affect. Vous allez suggérer à l'entreprise pour laquelle vous travaillez un ami, une personne de la famille, etc. Donc il y a un affect. Donc il faut savoir. Moi, ce que je fais, c'est que la cooptation est quelque chose d'ouvert chez Between et qui est même souhaitable et encouragé. Par contre, on prévient tout de suite les collaborateurs et de façon régulière qu'elle se fera objectivement, sans leur demander évidemment de participer au processus de recrutement. Et une fois que la personne est embauchée, si ça se conclut par un recrutement, on attend également la fin de la période d'essai. Nous, on récompense les collaborateurs pour lesquels une cooptation a fonctionné. Mais on met de côté le collaborateur par rapport au processus de recrutement, parce que sinon, ce ne sera pas objectif. Il y aurait trop d'affect.
Donc même s'il s'agit d'un recrutement via la cooptation, la compétence, ce que je comprends, ça doit rester la boussole du recrutement pour ne pas tomber dans les travers de la cooptation éventuellement, de copinage, ce genre de choses.
D'autant plus, je pense, quand c'est de la cooptation, effectivement.
Une des techniques pour atténuer la pensée de groupe, c'est la diversité au sein de l'équipe qui va être amenée à recruter. Dans tes processus de recrutement, si j'ai bien compris, il y a le E1 qui est avec toi ou avec un interlocuteur RH, le E2 qui est avec le futur manager, le N+1, et intervient également dans ce E2 ou en E3 un membre de l'équipe. Comment est sélectionné ce membre de l'équipe? Est-ce que c'est toujours le même, sélectionné par le manager? Et ce, pour quelles raisons? Ou est-ce que ça tourne? Est-ce que ça varie en fonction des profils à recruter? Comment vous organisez pour organiser justement la diversité au sein du processus de recrutement?
Le candidat va toujours, et j'y tiens, rencontrer ce que j'appellerais son homologue s'il était embauché. Donc, pour un commercial, il va rencontrer un commercial, pour un CSM, un CSM. Et ça tourne normalement, évidemment en fonction des agendas de tout le monde, mais je me suis rendu compte, alors ça c'est peut-être un biais cognitif, que finalement j'arrivais à toujours faire rencontrer une personne de chez Bitwin. Bah pourquoi? Parce que c'est une belle vitrine, parce que c'est une belle success story, etc. Et donc j'essaye quand même de mettre des personnalités différentes, et quand je vois que c'est trop sur un certain comportement, une certaine compétence, voire adapté aussi au candidat si c'est un junior, pour qu'il y ait quand même une possibilité de se projeter pour lui à l'avenir dans l'entreprise chez Bitwin, je prends quelqu'un qui aura à peu près dans les grandes lignes son parcours et sa durée d'expérience professionnelle.
Et pour finir, si nos auditeurs ne devaient retenir qu'un seul de tes conseils, tu voudrais que ce soit lequel ?
Ne pas se laisser diriger par l'urgence, la pression. D'une manière générale, prendre le temps de s'asseoir même 10-15 minutes pour discuter avec ses managers et les personnes qui recrutent, pour objectiver et ramener au maximum à l'esprit qu'on avait eu en rédigeant le job desk. Je pense qu'il faut toujours prendre le temps de résister à la pression ambiante, au sentiment d'urgence qu'on a systématiquement dans les entreprises quand il s'agit de recrutement, et de prendre le temps de se poser, même brièvement, même un quart d'heure, avec les personnes avec qui on collabore et le manager, pour essayer d'objectiver, de toujours ramener le recrutement au job desk qu'on a construit ensemble sereinement.
Un grand merci Anne-Sophie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ça a été un plaisir.
Merci Marie-Sophie pour l'exercice qui consiste à prendre le temps de se pencher sur cette pensée de groupe qu'on a tous expérimentée.
L'être humain est ainsi fait que nous voyons facilement les biais des autres, mais ne voyons pas la poutre de nos propres biais, affirme Olivier Siboni, professeur de stratégie à HEC. Il semble ainsi évident que nous sommes mieux armés pour prendre les bonnes décisions à plusieurs que tout seul. Mais rien n'est moins sûr, et nous venons de le voir. La faute en incombe au biais cognitif de la pensée de groupe, qui, étouffant les désaccords, peut mener à de mauvaises décisions, pour ne pas dire à des fiascos retentissants. Heureusement, grâce au témoignage d'Anne-Sophie et à ses précieux conseils, l'attention portée à l'ordre de prise de parole ou à la qualité du brief, ou bien encore le recours aux tests de personnalité, nous sommes dorénavant mieux armés pour affronter la pensée de groupe, mais aussi et surtout pour tirer le meilleur du recours au collectif et des collaborateurs d'une organisation. Vous venez d'écouter Histoire de recruteur, je me suis rangée à l'avis du groupe pour choisir un candidat et j'ai eu mes doutes. Grosse erreur. Sachez que vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Spotify, Deezer, Ocha, Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous.